chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode numéro 8 du balado Savoir et Stéthoscope. Aujourd'hui, ce sont vos animatrices Julie et Sophie qui vous accompagnent pour explorer un sujet aussi fondamental qu'incontournable dans notre quotidien professionnel, la communication.
Et pour en parler, on a le grand plaisir de recevoir avec nous Mme Joanne Martel, qui est designer de communication orale et de présentation multimédia. Alors, Mme Martel détient plus de 35 ans d'expérience dans le système de santé. Elle a débuté sa carrière comme infirmière en périnatalité pour ensuite devenir une chef d'unité, coordonnatrice et gestionnaire de projet. Et depuis son départ du système de santé, elle dédie son temps à sa nouvelle passion, c'est-à-dire les présentations multimédia. Elle donne maintenant des conférences, des formations et de l'accompagnement stratégique à diverses organisations sur la communication. Donc, bonjour à vous, Mme Martel.
Bonjour. Savoir et Stéthoscope, ça commence maintenant.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Le 8 octobre dernier, notre balado Savoir et Stéthoscope s'est vu décerner le prix coup de cœur au Gala d'excellence 2025 du CIUS de l'Estrichu. Parler aujourd'hui de savoir communiquer autrement prend tout son sens. Le balado constitue un moyen original et accessible de diffusion du savoir, contribuant activement au développement des connaissances et des compétences des professionnels en soins infirmiers. En juillet 2025, nous avions déjà franchi le cap des 3300 écoutes. Merci à tous nos invités et à notre collaborateur CEFAC, radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Merci spécialement à tous nos auditeurs et auditrices, tant de la région estrienne qu'un peu partout maintenant dans la province.
Sachez aussi que lors de cette même soirée, le projet Trajectoire de la DSI a remporté un prix dans la catégorie Mobilisation de la communauté interne. Ce projet inspirant contribue grandement à rehausser l'attractivité des professionnels en devenir dans notre établissement et à fidéliser notre relève en soins infirmiers. Le thème de la communication est vaste et on aurait pu l'aborder sous plusieurs angles avec notre invité. Mais aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur un aspect qu'on retrouve partout dans notre quotidien de travail, la transmission de l'information. Et attention, ici, on ne s'adresse pas seulement aux personnes qui conçoivent des formations. Au contraire, on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Dans le réseau de la santé, on transmet de l'information en continu aux usagers et leurs proches, à la relève, à nos collègues et souvent sans même s'en rendre compte.
Oui, et pourtant, transmettre de l'information, c'est loin d'être simple. Que ce soit pour vulgariser une note de service, enseigner un auto-soin à un usager et leurs proches ou encore accompagner un nouveau collègue, notre défi, c'est de rendre le message clair, compréhensible et utile. Tout ça pour que la personne en face de nous puisse s'approprier l'information, en faire une véritable connaissance et savoir s'en servir au bon moment. Alors, dans cet épisode, on explore comment se construit la connaissance et pourquoi c'est essentiel d'en comprendre les mécanismes et surtout, comment mieux soutenir l'apprentissage chez les usagers comme chez les professionnels. Alors que vous soyez infirmier, gestionnaire, intervenant ou formateur, ce balado est pour vous. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer.
Bon, débutons. Comme pour tout bon sujet, il est essentiel de bien comprendre les concepts de base avant d'aller plus loin. Dans le réseau de la santé, on parle souvent de former et d'informer. Et ces deux termes sont parfois utilisés comme s'ils étaient interchangeables, équivalents. Pourtant, je crois bien qu'il y a une différence importante entre transmettre de l'information et favoriser l'acquisition de connaissances.
Et oui, Mme Martel, selon vous, là, comme professionnelle, pourquoi il est essentiel de distinguer transférer de l'information puis transférer des connaissances?
En fait, on ne peut pas vraiment transférer des connaissances. On peut transférer des informations. Une information, c'est une donnée brute. C'est comme si vous écoutez le téléjournal et qu'on vous dit qu'il fait 20 degrés dehors. Alors, une connaissance, c'est la construction personnelle à partir de son vécu, à partir de sa culture, à partir de ses expériences. C'est comme ça qu'on construit nos connaissances. En fait, on fait un amalgame des informations qui nous sont présentées et on va les interpréter selon qui on est comme personne. La conséquence de ça, c'est qu'il faut absolument bien connaître l'interlocuteur qui est devant nous. On a plein de facteurs qui font en sorte que ça ne sera pas toujours évident selon sa culture, selon son état d'esprit et plein d'autres choses qui vont faire en sorte que ça ne sera pas évident.
Mais ça me fait penser que dans notre réalité, on est souvent pressé, on le sait. On donne une explication vraiment rapidement puis on espère que ça va être retenu. Mais c'est pas souvent le cas.
Non, c'est vrai. Puis tu sais, apprendre, c'est un long processus. On dirait qu'on comprend bien ça quand on est en contexte académique. Là, on le voit bien quand on est à l'école. Mais parfois, on l'oublie qu'en contexte de soins, là, c'est différent.
L'apprentissage, c'est pas un processus instantané. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Le cerveau, c'est pas un enregistreur. L'espèce de paradigme où on remplissait des cruches, où on remplissait le cerveau des gens, ça n'existe pas. Maintenant, avec la neuroimagerie, on voit très bien comment ça fonctionne. Pour devenir compétent, on a besoin de connaissances et des ressources externes pour pouvoir accomplir des tâches complexes. Mais ce qui peut être frustrant parfois pour certains infirmiers et infirmières, c'est de voir qu'ils ont enseigné quelque chose et que la personne s'en souvient plus, même 15 minutes plus tard. C'est assez frustrant. Un autre problème qui peut arriver, c'est le biais cognitif qu'on appelle la malédiction du savoir. Quand ça fait 15 ans qu'on enseigne la même chose, on a l'impression que la personne devant nous devrait apprendre ça en l'espace de 5 minutes. Mais pourtant, nous, ça nous a pris plusieurs années à l'apprendre. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. L'utilisation du jargon. Quand vous parlez à un patient et que vous lui parlez de glycémie, il n'y en a aucune idée de quoi vous parlez quand vous parlez de glycémie. Donc, c'est important de faire attention à son vocabulaire et d'être vraiment à l'écoute même du non-verbal du patient qui est devant vous pour être sûr que les informations que vous transmettez, parce que oui, on peut transmettre des informations, mais c'est lui qui va construire ses connaissances.
Moi, j'avais déjà entendu, puis là, je sors un peu du cadre, là, mais tu sais, concernant le niveau de littératie moyen, là, tu sais, moyenne de la population, est-ce que vous savez exactement c'est quoi? Parce que j'avais déjà entendu qu'il fallait s'adresser aux gens un peu comme si c'est tous des gens qui avaient au moins un secondaire 2, mais qu'il ne fallait pas viser plus que ça nécessairement.
Effectivement. Secondaire 2, je te dirais que c'est le maximum. C'est sûr que ça dépend tout le temps de la personne qui est devant toi. Mettons, c'est pour ça qu'il faut connaître la personne devant nous. Elle a-tu un bac, une maîtrise? Mais même à ça, il est stressé, il n'est pas dans son élément, il n'est pas dans son environnement. Alors, il faut tenir compte de ça et je pense que le niveau secondaire 2 permet un vocabulaire qui est accessible.
Ouais. La période de vulnérabilité qu'elles peuvent vivre, en effet, ça peut induire, même si t'es un... Moi, je suis souvent un cordonnier mal chaussé, là. Il n'y a rien de pire qu'une infirmière qui reçoit des soins justement pour pas toujours être en mesure de bien comprendre parce que l'émotionnel prend le dessus sur la raison, là.
Tellement. Je me souviens quand j'ai accouché, j'ai travaillé 25 ans dans une salle d'accouchement et quand les infirmières venaient, « Ah, oh, ben tu sais ça, t'as pas besoin de savoir. » Hey, dis-moi ce que j'ai besoin parce que là, je suis dans un état, comme tu dis, de vulnérabilité qui va faire toute la différence dans l'apprentissage.
Ça s'applique aussi pour les usagers, mais si on prend notre élève en soins infirmiers, on parlait, ben ils sont stressés, ils ont les connaissances, mais juste le fait d'arriver dans un milieu, dans un contexte réel, ben il faut prendre vraiment le temps de leur expliquer, là, effectivement, puis pas prendre en considération qu'ils se souviennent de tout, là, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, là. Donc, on comprend mieux pourquoi on peut pas juste lancer de l'information, hein, puis espérer qu'elle soit retenue par les usagers ou même par une collègue, là. Donc, Madame Martel, selon vous, qu'est-ce qu'on doit absolument considérer avant de transmettre un message ou de faire un enseignement?
Dans un premier temps, je pense que c'est important de savoir c'est quoi les connaissances de la personne sur le sujet que vous voulez aborder. Parce que s'il n'a aucune idée, c'est la première fois qu'il est exposé à un nouveau sujet, c'est extrêmement difficile pour lui d'absorber et d'intégrer ces informations-là pour ensuite être capable de les répliquer. La deuxième chose, c'est sa culture, son vécu et le soutien qu'il va avoir après que l'enseignement va avoir été donné ou dans l'accompagnement comme tel qui va avoir été donné. Tu sais, quand je parlais d'information puis de connaissances, si je dis à quelqu'un, aujourd'hui, il va faire 20 degrés dehors. Alors, la personne qui vit au Québec depuis longtemps, 20 degrés, OK, je peux sortir juste avec un petit gilet puis ça va bien aller. Mais si la personne à côté, c'est un Américain, pour lui, 20 degrés, là, c'est proche de zéro pour lui. Fait que là, il va sortir son manteau d'hiver. Donc, toute l'importance d'aller valider, est-ce que je parle le même langage, est-ce que j'ai les mêmes connaissances, c'est vraiment une priorité. La troisième chose, c'est l'état d'esprit. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est motivé à apprendre? Y a-t-il un intérêt? Ça, c'est vraiment des choses à aller voir, dire jusqu'à quel point c'est important pour vous d'apprendre ça aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon moment? Et finalement, le contexte. Parce que là, on apprend ça dans une chambre d'hôpital ou dans un local au CLSC. Mais dans le fond, lui, monter un escalier, il reste au troisième étage, là. Il n'y a pas juste deux marches à monter, là. Il y en a 22. Alors, gardez en tête quel est l'environnement dans lequel il va pouvoir répliquer encore une fois l'enseignement que vous donnez et dans lequel il va pouvoir vraiment se sentir à l'aise et prêt à retourner à la maison.
Là, depuis les 4-5 dernières minutes, on en parle beaucoup de l'importance du contexte, du vécu, de l'état d'esprit, comme quoi que ça peut influencer la capacité d'apprendre. Mais je me questionne, tu sais, si on prend réellement en compte ces éléments-là avant de faire un enseignement à un usager, là, ou même de transmettre là, du savoir à un collègue.
Bien, je pense à une situation qu'on connaît tous, hein, puis on en a un petit peu parlé tantôt. On fait un enseignement rapide sur un coin de table où on donne un petit dépliant à l'usager, puis on se dit « Oh, c'est check, ma job est faite. » Mais au fond, c'est peut-être une job faite, mais pas nécessairement bien faite. Au final, c'est un peu comme mettre de la farine dans un bol sans œufs, sans cuisson, puis espérer que ça devienne un cupcake digne d'une émission de pâtisserie. Hein?
Et concrètement, justement, Joanne, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui doit transmettre de l'information, que ce soit donc à un usager ou à un collègue, pour s'assurer que le message soit bien compris, soit retenu et réellement utile?
Si vous avez tenu compte des facteurs qu'on a discutés il y a quelques minutes, vous allez aussi prendre en considération c'est quoi le degré de complexité. Et si oui, c'est complexe, on va y aller par étapes. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans une fois. Il faut essayer de réfléchir comment on va déployer ce plan d'enseignement-là pour que ça se fasse par étapes, dans le sens où si c'est plus compliqué. Il faut aussi voir le degré de nouveauté, ça on en a déjà parlé. Et l'importance de vulgariser aussi. Utiliser des analogies que le patient va pouvoir se souvenir plus tard. Ah, c'est comme aller en forêt la première fois, je suis obligée de tout débroussailler, alors que si ça fait 10 fois que j'y vais, ça va être extrêmement facile. Donc, essayez d'utiliser des analogies que lui va pouvoir se souvenir, et même des histoires, des anecdotes qu'il va même pouvoir raconter après. Il faut trouver le bon moment. S'il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est hyper stressé, il n'y a personne avec lui, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Mettre en contexte, se rapprocher le plus possible du milieu de vie et l'importance de prendre son temps et répéter. C'est pas parce que le patient revient au poste 15 minutes plus tard et vous pose les mêmes questions que vous devez être impatient. Il faut répéter, répéter. Et c'est comme ça que les informations vont pouvoir se consolider en connaissances.
Et quand on fait de l'enseignement à un patient, parce que c'est quelque chose qu'on vit régulièrement, tu sais, il y en a qui vont se baser uniquement que sur les petits dépliants qu'on va remettre, d'autres qui vont y aller uniquement qu'avec des mots, mais je crois qu'il faut être capable un peu de, je veux dire, multiplier ces différents canaux-là.
Absolument. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Si on utilise un dépliant, il faut le regarder avec lui. Même que je vous dirais, donnez-lui le dépliant dans un premier temps, qu'il ait le temps de se faire une tête sur le dépliant. Ensuite, allez le voir. Sortez votre surligneur, puis montrez-lui qu'est-ce qui est important, puis laissez-le manipuler. Puis demandez-lui aussi, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il y a dans ce pamphlet-là? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Faire un peu de réflexivité pour s'assurer qu'il comprend la même chose que vous avez enseigné, parce que des fois, ça ne marche pas. Ça peut être aussi une petite vidéo que vous allez faire même en... Fait qu'on a tous accès à des cellulaires, là. Pourquoi pas faire une petite vidéo sur le cellulaire du patient? Je dis, regardez, là, si vous êtes embêté, allez voir votre petite vidéo, puis ça va faire la job.
Oui. En gros, on retient aussi qu'il faut être capable de revenir sur ce qu'on a transmis, de prévoir un suivi de tout ça, puis une consolidation. Puis ça, on le dit souvent, hein, valider régulièrement la compréhension des usagers.
C'est comme une situation qu'on vit malheureusement vraiment souvent sur le terrain. Hein. Des usagers qui nous reposent la même question, vous en parliez, Mme Martel, qui reviennent au poste ou qui reposent la même question. Puis dans l'équipe, on l'entend. Hein. On entend les gens dire « Ah, oh, on vient de lui dire, on y a déjà dit, il retient rien. » Mais en vous écoutant, là, Mme Martel, on comprend que répéter, reformuler, revenir en arrière, bien, c'est pas un échec, là. C'est une étape normale du processus d'apprentissage. Puis en plus, comme on disait, le contexte, bien, les usagers, ils sont dans une situation où des fois, ils sont plus vulnérables, ils ont du stress. C'est donc normal, là, qu'ils n'aient pas tout appris puis qu'ils n'aient pas tout retenu. Donc, on gagne à avoir ces moments-là pas comme un irritant, mais comme une opportunité, en fait, de renforcer la connaissance puis de créer du sens aussi dans ce qu'on dit à l'usager. Il peut comprendre les mots, mais sans comprendre le sens de tous ces apprentissages-là, de tous toutes ces informations-là. Donc, en fait, ça nous aide là, à voir comment on peut accompagner plus efficacement.
Absolument. Parce que juste lire, c'est pas suffisant. On sait que je pourrais lire un livre en sciences infirmières, ça veut pas dire que je vais être une bonne infirmière.
C'est bon, oui. Puis, faut que je revienne là-dessus quand même. Pour avoir déjà assisté à une de vos conférences, là, on le sait que le sujet des présentations, notamment PowerPoint, vous tient particulièrement à cœur. Donc, c'est impossible de quitter cet épisode-là sans en parler un petit peu.
Mais c'est en effet un sujet super intéressant parce que dans le réseau de la santé, là, on le sait qu'on utilise régulièrement des présentations PowerPoint pour transmettre l'information. Bien, je pense aux conseillères en soins, aux gestionnaires, même aux ASC dans certaines situations. Mais on se rend compte que c'est pas tout le monde qui réussisse à toujours capter l'attention ou vraiment faciliter la compréhension du message puis des enseignements qu'ils veulent passer dans ce PowerPoint-là.
Oui. Puis j'aimerais ça justement que vous nous disiez, là, si, admettons, j'ai à faire une présentation de 45-60 minutes, ça serait quoi, selon vous, les points essentiels que je devrais garder en tête pour que mon information soit pas juste bien reçue, mais aussi transformée en véritable savoir? Donc, comment optimiser finalement mes présentations?
Les présentations, c'est mon cheval de bataille. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Par contre, quand on parle d'une présentation de 45 minutes, nos attentes sont irréalistes. On s'imagine qu'en 45 minutes, les gens vont tout absorber l'information, vont partir avec ça, puis vont être capables de devenir des experts en la matière. Et bien souvent, ce que je vois, en fait, trop souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont essayer de mettre dans un PowerPoint 15 ans d'expérience. Alors, ils mettent des informations, on tombe dans l'infobésité. C'est bon. Assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que, dans le fond, le but d'une présentation de 45 minutes, là, c'est de piquer la curiosité et de susciter l'intérêt des gens, qu'ils aient le goût d'en savoir en plus. Comment vous allez faire ça? La première question, c'est commencer par vous poser la question, pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet? C'est quoi votre histoire? C'est quoi votre message principal? Qu'est-ce que vous voulez changer chez votre auditoire? Parce que vous ne voulez pas qu'ils soient pareils quand ils arrivent et quand ils partent. Vous allez avoir provoqué un changement. Il faut aussi réfléchir à son auditoire. C'est qui est là? Qu'est-ce qui les motive, ces gens-là? Ils connaissent quoi? La même chose que quand on parle à un patient, dans le fond. Pourquoi ils devraient vous écouter? Vraiment, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Et à partir de ce moment-là, vous avez la base. Vous savez ce que vous voulez présenter, quel changement vous voulez provoquer et vous savez à quel auditoire vous vous adressez. Par la suite, vous devez vous demander, OK, je veux changer ce qu'il y a dans leur cerveau, là. Mais comment il fonctionne, ce cerveau-là? Dans un premier temps, il y a comme trois temps. Le premier temps, c'est que vous devez avoir leur attention. Si vous n'avez pas l'attention, oubliez ça, ils vous écouteront pas. La deuxième chose, après qu'on a capté l'attention, c'est de la maintenir et de faciliter la compréhension de ce que vous allez transmettre. Et finalement, la mémoire de travail est très limitée, on va en parler, et elle va se servir des connaissances antérieures qui sont dans la mémoire long terme. Donc, la mémoire long terme et la mémoire de travail, ils travaillent ensemble. Donc, comment on fait pour capter l'attention? L'émotion la plus intéressante pour capter l'attention, c'est la surprise. Vous devez surprendre les gens dès le début. Sortez-leur votre plus grosse statistique ou votre histoire la plus incroyable, une anecdote, une controverse. Allez susciter leur curiosité. C'est probablement le point le plus important quand vous commencez. Après ça, vous pourrez leur dire, OK, on va regarder ça ensemble et je vais vous présenter trois points importants à retenir. Pourquoi trois points? C'est parce que la mémoire de travail a beaucoup de difficultés à retenir plus que trois ou quatre points à la fois. Donc, on y va toujours en trio. C'est pour ça que McDonald's vend des trios. C'est parce qu'ils veulent s'en souvenir. Alors, les trois petits cochons, je pourrais 1, 2, 3, go. On a plein d'exemples par rapport au chiffre 3. C'est votre chiffre magique. Donc, 3 arguments. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le public a besoin d'entendre pour être convaincu de votre message? Donc, vous avez vos 3 arguments. Et l'autre chose qui est hyper importante et que je répéterai jamais assez, c'est que lorsqu'on regarde une diapositive remplie de textes et qu'on a un présentateur qui est juste à côté, notre premier réflexe, ça va être de lire la diapositive. Et ce qui arrive quand on lit une diapositive, il y a une voix intérieure qui s'active dans notre cerveau. Et cette voix-là, on l'entend. Alors, vous avez un présentateur qui parle et vous avez votre voix intérieure que vous entendez. Il y a un conflit d'attention flagrant. Alors là, vous êtes obligé de décider, est-ce que j'écoute ma voix intérieure ou est-ce que j'écoute le présentateur? En tant que présentateur, vous voulez qu'il vous écoute. Vous êtes venu, vous êtes l'expert. C'est un peu comme si vous allez voir un show au forum, ça n'existe même plus le forum, au Centre Bell, et puis que les choristes chantent plus fort que le chanteur principal. Ah, ça ne marche pas, ça. Alors, le PowerPoint, c'est les choristes. Laissez-les à leur place. Il est là juste pour supporter vos propos.
J'ai envie de dire aussi, tu sais, des fois, ça arrive où est-ce qu'il y a une diapositive avec beaucoup de texte, puis l'animateur va résumer dans d'autres mots. Puis je pense qu'on a ce conflit-là, sans doute aussi, de dire que notre cerveau essaye de lire, mais en même temps, l'animateur dit autre chose, pas les mêmes mots. En même temps, ça aussi, c'est assez complexe là, pour assimiler l'information.
Effectivement, ça amène une asynchronie. On perd le fil. Et qu'est-ce que le cerveau fait dans ce temps-là? Il décroche. Il va retourner à son cellulaire et regarder des courriels qui sont moins compliqués que ce qui est présenté à l'écran. Il ne faut pas que le PowerPoint serve d'aide-mémoire. Il ne faut pas que le PowerPoint soit un cours de lecture 101. Ce n'est pas un téléprompteur non plus. Il est là pour supporter les propos. Et finalement, vous pouvez utiliser des analogies pour s'assurer que les gens participent, utiliser des histoires. Ça, c'est des choses qui vont rester dans la tête des gens parce que vous allez aller toucher ce qui est vraiment important pour les gens.
C'est drôle parce que là, on parlait de la présentation PowerPoint, mais pendant que je vous écoutais, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on discutait plus tôt. Par exemple, quand je fais de l'enseignement à un usager. Si je lui remets le dépliant, que je lui laisse pas un temps de le regarder, mais que je parle par-dessus le dépliant en même temps qu'il essaye de le lire, finalement, ça vaut pas grand-chose en matière d'acquisition d'apprentissage, si je comprends bien.
Absolument. C'est impossible de faire les deux. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Donc, on a 2 canaux pour capter les informations. On a le visuel et on a l'auditif. Il ne faut pas qu'ils entrent en compétition. Puis quand on parle de visuel, ça veut dire qu'il faut utiliser davantage les aides visuelles. On parle d'images, de graphiques, des icônes. Il y a plein de possibilités au niveau visuel qu'on peut utiliser qui ne vont pas surcharger. On peut aussi utiliser des mots-clés au lieu des longs paragraphes puis des bullet lists là, qui finissent plus, parce qu'après 3 points, les gens n'écoutent plus. Les gens ne suivent plus, ils ne sont pas capables. Donc, essayez d'utiliser davantage des aides visuelles pour transmettre des informations, pour renforcer vos propos. Et finalement, la fameuse conclusion. Oubliez le petit bonhomme pas de face avec le point d'interrogation, s'il vous plaît.
La classique.
Le merci écrit en gros sur la diapositive, comme si vous n'alliez pas dire merci de toute façon, comme si vous aviez besoin de le lire pour être capable de le dire. Dans le fond, la conclusion, il y a trois points importants dans la conclusion. Vous devez résumer rapidement ce que vous venez de dire parce que vous avez dit beaucoup de choses. Alors, quels sont les 3 points importants à retenir? Et finalement, donnez-leur un appel à l'action. Qu'est-ce que je peux faire, moi, demain matin pour mettre ce que je viens de vous transmettre comme information? Guidez-les. Dites-leur c'est quoi vos attentes par rapport à ce qui peut arriver après. Et finalement, finissez par votre dernier feu d'artifice que j'appelle une inspiration. Ça peut être une citation, ça peut être une image, ça peut être « imaginez que… » Et à la fin, vous pouvez remercier votre public.
C'est bien ça.
Je le vois vraiment aussi transposable à l'enseignement à l'usager. Imaginez que l'infirmière arrive puis qu'elle dise un fait là, vraiment inspirant ou quelque chose qui va venir capter son attention, une histoire, quelque chose. Elle fait son enseignement puis elle quitte avec justement une belle image, quelque chose de motivationnel. En tout cas, je pense que, tu sais, oui, c'est pour les PowerPoint, mais hey, on pourrait aussi le transposer à l'enseignement sur l'unité peut-être là, pour auprès des usagers.
Pourquoi pas?
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
En octobre dernier, une formation inspirée du programme ASI de la Direction des soins infirmiers a été offerte au Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la Baie-James à l'occasion de leur semaine annuelle de formation des infirmières et infirmiers. L'équipe de la DSI est fière de pouvoir faire rayonner ce programme de notre établissement auprès des autres établissements de la province. Le rôle de l'ASI est un pilier essentiel de la gouvernance clinique et contribue activement à la valorisation des professionnels en soins infirmiers dans le but commun d'offrir des soins de qualité et sécuritaires aux usagers et leurs proches.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit de décider de procéder à la fouille d'un usager ou de ses biens selon mon jugement clinique? Procéder à la fouille d'un usager et de ses biens n'est pas considéré comme une activité réservée à une catégorie de professionnels. La décision de procéder à une fouille doit reposer à la fois sur l'évaluation de la situation et donc sur le jugement clinique, mais aussi sur un encadrement qui est prévu au sein de l'établissement. De plus, considérant l'atteinte aux droits fondamentaux, dont le droit à l'inviolabilité et à l'intégrité, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection contre la fouille, la saisie et les perquisitions abusives, la recherche d'un consentement libre et éclairé est toujours à considérer en premier lieu. Comme aucun droit, aussi fondamental soit-il, n'est absolu, dans certaines situations, l'atteinte aux droits fondamentaux, par exemple à la suite d'un refus de consentir à la fouille, peut être justifiée, si la fouille est justifiée en fonction d'un objectif sérieux et important reflétant un besoin urgent et réel d'y procéder, que la fouille exécutée doit être raisonnable en proportion avec l'objectif visé. Le moyen choisi pour la fouille doit porter atteinte le moins possible aux droits fondamentaux et les effets positifs de la fouille doivent surpasser ses effets préjudiciables pour l'usager. La personne qui choisit de procéder à une fouille doit donc être en mesure de démontrer son importance, dont les faits sur lesquels elle s'appuie pour prendre une telle décision et bien documenter le tout. En plus du consentement de la personne, il est préférable que la fouille des effets personnels s'effectue devant elle et en présence d'un témoin dans un milieu permettant d'assurer une intimité. Pour rappel que chaque professionnel engage pleinement sa responsabilité face aux décisions et actions qu'il entreprend. Elle doit donc être en mesure de justifier ses actions. Attention aussi à la stigmatisation et à la présence de biais cognitifs qui ne doivent pas guider vos interventions. La fouille et la saisie à l'égard d'un usager constituent des mesures préventives visant à assurer la sécurité et celle des autres. Elles ne sont mises en œuvre qu'à titre exceptionnel et reposent sur la responsabilité générale d'établissement en matière de protection des usagers, des visiteurs et des intervenants. Sauf en cas d'urgence ou face à un danger immédiat et grave, elles ne peuvent être effectuées sans le consentement préalable de l'usager.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Glottophobie ou discrimination linguistique. La discrimination linguistique ou glottophobie se produit lorsqu'une personne est traitée de manière injuste en raison de sa langue maternelle, de son accent ou de la langue qu'elle parle. Cela peut se manifester dans divers contextes tels que le lieu de travail, l'éducation et les services publics. Un exemple courant de discrimination linguistique est celui d'un employé dont l'accent étranger génère des moqueries ou une sous-estimation de ses compétences. Les personnes issues des communautés latino-américaines, par exemple, ou encore d'origine caribéenne, sont souvent des victimes de cette stigmatisation. La discrimination linguistique est préjudiciable et va à l'encontre des principes d'égalité et de diversité. Pour la combattre, il est essentiel de promouvoir la tolérance linguistique, de valoriser les compétences au-delà des différences linguistiques et de sensibiliser les individus à l'impact de leurs préjugés. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, Diversité et Inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichus. Merci.
Merci infiniment, Madame Martel, pour votre générosité puis pour toutes ces pistes vraiment concrètes là, pour notre communication. Vous nous avez permis de mieux comprendre comment transformer nos messages en véritable levier d'apprentissage.
Ça me fait super plaisir parce que, comme je vous l'ai mentionné, c'est vraiment ma passion. Et pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Dans le fond, j'ai écrit un livre qui va être publié à la mi-janvier. Alors, si vous voulez en savoir plus, aller plus loin, il va y avoir dans les show notes l'inscription à l'infolettre. Et à travers cette inscription-là, vous allez pouvoir avoir tous les détails pour l'achat du livre. Et je vous jure, là, c'est rempli de bons exemples. Il y a une centaine d'illustrations, donc ça va pouvoir vous guider.
Assurément que je vais me le procurer. D'ailleurs, le livre va s'intituler « Présenter autrement ».
Combiner la science, le design et les émotions.
Aha, d'accord.
Voici ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers Savoir et Stéthoscope.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.